geste éco-citoyenneté, apprendre à économiser et à partager, apprendre à réduire ses déchets et à limiter la pollution. Soyez écolo en écoutant votre magazine Planète Environnement, Agir pour notre planète, le mardi de 12h à 12h30. Lucie et Ophélie vous accompagnent dans cet espace éco-citoyen sur votre radio locale, Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM et sur le www.ram72.net.
Bonjour et bienvenue dans votre magazine Planète Environnement sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM. Au programme de ce magazine, nous allons parler environnement avec Monsieur Éloin Arthur, chercheur en sciences des matériaux pour Ecopertica, une structure qui participe au bien-être de la planète et à l'écologie. How do we end up like this? Magazine Planète Environnement sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles. On va parler écolo, on va vivre et construire écologique avec Ecopertica. Nous recevons Monsieur Arthur Éloin, chercheur en sciences des matériaux pour Ecopertica. Bonjour Monsieur Éloin.
Bonjour.
Alors Monsieur Éloin, tout d'abord, pouvez-vous nous présenter Ecopertica ?
Alors Ecopertica, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui est basée dans le Perche, donc à Nocé, juste à côté de Bellem. Et on existe depuis 2011, donc on est en train de fêter notre cinquième année cette année. Et donc Ecopertica, c'était au départ deux associations qui se sont rassemblées pour former donc une société coopérative d'intérêt collectif. Donc le principe d'une société coopérative d'intérêt collectif, c'est que toutes les personnes qui souhaitent devenir sociétaires parce qu'ils sont intéressés par l'activité peuvent le faire. Et le principe, c'est quel que soit le nombre de parts que les personnes achètent, c'est toujours basé sur le principe une personne est égale une voix. Et donc dans la SIC Ecopertica, on a plusieurs collèges de sociétaires. On a des agriculteurs, des professionnels du bâtiment, c'est-à-dire des architectes, des artisans. On a des particuliers, les salariés de la société coopérative et enfin des partenaires. Et donc n'importe qui est intéressé par l'éco-construction dans le Perche peut nous rejoindre pour participer au développement d'Ecopertica.
Alors concrètement, pour nous particuliers, quels sont les objectifs ?
Alors Ecopertica, on cherche à faire deux choses. La première, c'est de la sensibilisation du conseil et de l'accompagnement à l'éco-construction. Donc la sensibilisation, c'est notamment à travers tout un agenda d'activités qu'on propose. Il est disponible sur notre site internet www.ecopertica.com et donc on a notamment une visite d'une maison construite avec de la terre, un atelier d'initiation à la taille de pierre, des soirées thématiques sur l'isolation écologique, c'est-à-dire comment isoler sa maison. Voilà, différents événements qui sont quasiment tous en entrée libre et où l'idée c'est de permettre aux personnes de se renseigner sur l'éco-construction, comment ça fonctionne, combien ça coûte, et puis sur certains ateliers de tester, de sentir les matériaux. Donc ça c'est un premier point de notre activité. Ensuite on peut proposer du conseil. Donc par exemple quand quelqu'un veut acheter une maison, on peut venir visiter la maison avec eux et évaluer si le projet de la personne est bien compatible avec son budget et ses envies. Donc on peut faire ça avant un achat, on peut faire ça avant un projet de rénovation. Et puis dernière chose, on peut accompagner des chantiers d'éco-construction. Donc si quelqu'un veut faire un chantier, soit avec des artisans, soit il veut le faire tout seul, soit il veut le faire en chantier participatif, soit il aimerait bien qu'un artisan lui montre comment faire pendant un ou deux jours et puis ensuite faire les travaux lui-même. On peut s'adapter à toutes ces méthodes d'organisation et ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de garantir que le chantier soit cohérent écologiquement. C'est-à-dire qu'ils respectent les coûts, les délais, qu'on utilise le plus possible des matériaux locaux. Donc voilà, donc ça c'est la première partie de l'activité Ecopertica, donc sensibilisation, conseil et accompagnement. Et la deuxième partie, c'est la production d'éco-matériaux locaux. Donc on cherche à redévelopper des filières pour avoir des matériaux écologiques pour la construction qui soient produits localement. Donc on développe notamment la filière chanvre pour faire de l'isolation écologique et la filière terre crue pour refaire des torchis, refaire, on va dire, des maçonneries à l'ancienne, et puis aussi faire de l'isolation écologique avec de la terre crue, qui est une isolation à très bas coût environnemental.
Alors, on va parler de ces matériaux tout de suite après. Si vous voulez bien, avant, je vais vous demander à vous, quel est votre rôle ? Qu'est-ce que vous faites au sein d'Ecopertica ?
Alors, du coup, moi, je suis chercheur en sciences des matériaux, et je m'occupe de tout ce qui est recherche et développement à Ecopertica. Ce qu'on cherche à faire notamment, c'est à caractériser les matériaux locaux. Puisqu'en fait, aujourd'hui, le secteur de la construction est un secteur, on va dire, avec pas mal de normes à respecter. Et ces normes sont assez coûteuses pour démontrer que nos matériaux passent ces normes-là. Ce principe de certification est intéressant pour garantir la qualité des matériaux, mais néanmoins, elle n'est pas adaptée aux filières locales de matériaux tels que celles qu'on développe, nous, en circuit court. Donc ce qu'on fait, on travaille avec d'autres agriculteurs ou d'autres producteurs d'écomatériaux situés sur d'autres territoires. Donc on est par exemple membre d'une association qui s'appelle l'Association des chanvriers en circuit court, qui est une association nationale, qui regroupe différents groupes d'agriculteurs qui produisent du chanvre, tous en circuit court. Et ce qu'on cherche à faire, c'est à caractériser les chanvres qui sont produits sur tous ces territoires. Donc j'ai envie de dire que la recherche qu'on fait à Ecopertica, c'est de la recherche en écomatériaux, mais pour les filières locales en circuit court. Donc on cherche à prendre en compte la variabilité des matériaux, à la caractériser, pour pouvoir ensuite mieux comprendre ces matériaux et pouvoir ensuite aussi transmettre ce savoir-faire aux artisans et aux particuliers autour de nous.
Alors
pour pouvoir mieux faire de l'éco-construction encore.
Alors, on peut construire écolo avec des matériaux comme vous les avez cités tout à l'heure. Est-ce qu'on peut construire écolo d'une autre manière ?
Alors, on peut construire écolo avec avec plein de matériaux, en fait. Donc, à Ecopertica, on travaille particulièrement avec le chanvre et la terre, parce que c'est les matériaux qu'on connaît bien et qu'on essaie de développer sur le territoire. Mais on travaille aussi avec de la fibre de bois. On peut travailler avec de la paille. On peut travailler avec de la pierre. L'idée, en fait, en éco-construction, c'est pas d'avoir un seul matériau, c'est d'avoir, disons, le bon matériau au bon endroit. Et si on est dans une région où on va avoir de la construction en pierre parce qu'on a des gisements intéressants, et ben du coup on va plutôt essayer de favoriser la construction en pierre. Si on est dans un endroit où on va avoir plutôt de la construction en terre, et ben on va s'appuyer plutôt sur la construction en terre. Donc l'éco-construction dépend aussi de là où on est, des ressources locales, de l'architecture, des maisons qui ont été faites par le passé. Voilà. Mais le principe, c'est donc d'utiliser les ressources locales et en même temps d'atteindre des fortes performances thermiques dans le bâtiment pour limiter le coût, la facture énergétique, hein, et puis ensuite pour contribuer à lutter contre le réchauffement climatique. Ça, c'est quand même un enjeu majeur. Et derrière, une contrainte qu'on a et qui est importante, c'est de rester dans des coûts qui soient acceptables. Donc l'idée, c'est de faire de l'éco-construction accessible pour tous.
When the leaves turn brown, I watch them burn across the sun and above the clouds. The sirens clear, I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out, living forever in a ghost town. You save me, I save you, a miracle that was meant for two. I save you, you save me, a miracle at every beat of my heart.
Toujours à l'écoute de votre magazine Planète Environnement sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM. Nous retrouvons monsieur Éloin Arthur, chercheur en sciences des matériaux pour Ecopertica, une structure qui participe au bien-être de la planète.
Alors parlons maintenant de ces matériaux. Vous avez cité le chanvre. Pourquoi le chanvre, par exemple, est un matériau écologique ? À quoi il peut servir ?
Alors le chanvre peut servir à principalement à isoler thermiquement dans une maison. Donc le chanvre, c'est une plante qui fait à peu près 3 à 4 mètres de haut. Le chanvre qui est autorisé à la culture en France, c'est un chanvre qui ne contient pas de THC, donc il n'a pas d'effet psychotrope. Et ce chanvre, en fait, il est récolté, broyé, et on sépare la laine de chanvre de la chenvotte. La chenvotte, c'est un peu comme des petits copeaux de bois. Donc on récupère ces deux matériaux à partir de la plante du chanvre. Donc avec la laine de chanvre, on peut isoler les murs, on peut isoler les rampants, les combles. C'est de la laine. Donc c'était un matériau qui servait par le passé à faire les cordages des navires. Donc c'est un matériau qui résiste bien à l'humidité et qui a une très bonne durabilité. Puis ensuite, on récupère la chenvotte, donc les petits copeaux de bois qui peuvent servir, par exemple, à faire des bétons de chaux-chanvre ou des bétons de terre-chanvre, des enduits correcteurs thermiques sur les murs. Voilà, principalement, il y a d'autres applications, je dirais, mais ça, c'est les plus connues sont celles que j'ai citées. Et pourquoi c'est un matériau écologique ? Ben, il y a plusieurs raisons. Déjà, ce qui est important, c'est que c'est des matériaux qui ont des bonnes performances thermiques, donc ça permet d'isoler les bâtiments. Donc c'est quand même ça le principal, hein, c'est qu'on a une bonne performance dans le bâtiment à la suite du chantier. Mais c'est des matériaux écologiques parce qu'ils sont issus, c'est des ressources agricoles. Donc on a consommé très peu de matières, de ressources fossiles pour leur production. Et puis ensuite, c'est des matériaux qui sont très facilement recyclables en fin de vie. Il y a entre guillemets même pas besoin de les recycler en fait. Je dirais même plus qu'ils sont compostables en fin de vie. Donc voilà, donc c'est des matériaux qui demandent très peu d'énergie pour leur fabrication, qui permettent d'avoir des bonnes performances thermiques dans le bâtiment. Et puis une fois que le bâtiment, ben, on n'en aura plus l'usage, on voudra le modifier, ce sont des matériaux qui ont un très bas coût de déconstruction.
Alors, vous avez également parlé de la terre cuite.
Vous avez très bien fourché, puisque du coup, la terre cuite est un excellent matériau de construction, et la terre crue également, mais elles servent à des choses différentes.
Très bien. Eh bien, parlons de ces deux terres, si vous voulez bien.
Alors, la terre cuite, ça sert, ben, c'est ce qui sert notamment à faire les tuiles. Ça sert aussi à faire des briques de terre cuite. Alors, la différence entre la terre crue et la terre cuite, c'est que la terre cuite, c'est de la terre crue qu'on a cuite. Donc, on récupère de la terre crue, c'est-à-dire qu'on enlève la couche végétale, qui sont les 30 premiers centimètres qu'on retrouve sur le sol, et puis en dessous, on peut retrouver en général, donc ça dépend d'où on est sur le territoire, mais on trouve souvent de l'argile en dessous, donc c'est de la terre qui colle. Cette terre-là, si on la prend telle qu'elle et qu'on construit avec cette terre, c'est ce qu'on appelle de la terre crue. Si on prend cette terre et qu'on va la faire cuire entre 1000, 1200 degrés, ça dépend des fours, ça peut être même un petit peu plus haut, on obtient de la terre cuite. Alors la grande différence entre ces deux matériaux, c'est que la terre cuite est plus résistante mécaniquement, et la terre cuite est relativement insensible à l'eau. Et c'est pour ça qu'on l'utilise pour faire les tuiles. La différence entre ces matériaux aussi, c'est que la terre crue a un coût écologique bien meilleur, enfin en tout cas bien plus faible que celui de la terre cuite. Puisque la terre cuite, on est obligé de faire cuire la terre à 1000, 1200 degrés, et donc ça a un coût écologique. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est d'utiliser de la terre crue tant qu'on peut, quand c'est possible, mais dans des endroits où il y a un risque à l'humidité qui est relativement faible. Et par contre, aux endroits où c'est vraiment nécessaire, on peut mettre de la terre cuite.
Alors, est-ce qu'il existe d'autres matériaux ? Le réemploi, peut-être, qu'on peut réutiliser au niveau de certains matériaux ?
Tout à fait. On peut utiliser d'autres matériaux. Alors, le réemploi, ça peut concerner des matériaux que j'ai cités tout à l'heure, par exemple des pierres. La terre crue, ça peut être aussi un matériau de réemploi. On peut faire du réemploi avec un peu tous les matériaux. Ça peut être des fenêtres, ça peut être des anciennes charpentes. La grosse question du réemploi derrière, c'est comment... Soit chacun gère le réemploi de son côté. Donc ça, c'est assez facile, j'ai envie de dire. Vous faites chez vous avec la récupération des matériaux que vous avez trouvés. Par contre, c'est aujourd'hui sur le territoire assez difficile à organiser, puisqu'en fait, on avait réfléchi avec Copertica à monter une filière de réemploi, c'est-à-dire de récupérer des matériaux de la construction qui n'avaient pas été utilisés, donc j'ai envie de dire les fins de stock de chantier, et de les remettre en circulation. Mais on se retrouvait en fait avec plein de petits morceaux de plein de choses, et donc c'est assez difficile derrière à organiser le réemploi. Donc tout ça pour dire que le réemploi, c'est une très bonne solution. À titre personnel, si chacun peut s'organiser pour faire un peu de réemploi, c'est une très bonne solution. Mais par contre, c'est assez difficile à organiser concrètement sur le territoire, par exemple pour ouvrir un magasin qui ferait que de la revente de matériaux de construction d'occasion. Mais le réemploi, c'est aujourd'hui peut-être une des manières les plus intéressantes pour réduire le coût carbone lié à la fabrication des bâtiments. C'est également le cas dans d'autres secteurs, par exemple pour l'informatique. L'informatique est un secteur qui est extrêmement préjudiciable pour le milieu environnemental, sur la fabrication des ordinateurs, qui nécessite des terres rares, du silicium et d'autres matériaux qu'on n'aura plus dans 50 à 60 ans. Pour l'informatique, le réemploi est vraiment une des seules voies pour baisser le coût carbone. Donc voilà, donc faites du réemploi tant que vous pouvez, Et quand on fait pas du réemploi, du coup, on essaie de prendre des matériaux les plus écolos possibles, au sens qui ont une énergie grise ou un coût carbone à la fabrication qui est faible.
Alors, vous l'avez dit également, vous êtes présent pour des conseils pour les particuliers, donc que ce soit en rénovation, etc. Combien de personnes font appel à vous ? Est-ce que vous avez une idée par année ?
Alors, ça dépend.
Le début de la création ?
Alors, j'ai pas de chiffres extrêmement précis, puisqu'en fait, on donne des conseils sous différentes formes. On peut donner des conseils, notamment quand on vend les matériaux, que ce soit du chanvre ou de la terre. L'idée, c'est qu'on cherche toujours à accompagner la vente d'un transfert de savoir-faire. C'est-à-dire que ces matériaux sont des matériaux locaux, où il y a des méthodes de mise en œuvre qui sont adaptées à ces matériaux. Et donc, on donne des explications aux personnes qui souhaitent partir sur ces à l'utilisation de ces matériaux. Ensuite, si c'est vraiment un conseil, c'est-à-dire que les personnes veulent qu'on vienne chez eux, qu'on se déplace pour prendre le temps d'évaluer avec eux comment organiser leur projet, si on isole, est-ce qu'il faut commencer par ici ou par là, quel matériau on va prendre pour tel endroit et quel matériau pour tel autre endroit dans la maison. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les visites conseils. Je dirais que chaque année, on organise entre une 40 à 50 visites conseils. Voilà. Et puis ensuite, on organise des suivis de chantier. Donc ça, c'est pour les personnes, c'est souvent après une visite conseil. Certaines personnes souhaitent faire le chantier. Et donc, on peut leur proposer de les accompagner pour la réalisation du chantier. Donc, on les aide pas à faire en tant qu'artisan, mais par contre, on les aide à l'organisation du chantier, à trouver les artisans, à valider les devis, c'est-à-dire vérifier que ce qui est marqué dans les devis, c'est bien ce dont ils ont besoin, et de pas prendre nécessairement le devis moins cher, mais de bien faire le compromis entre, bah, en même temps, on va prendre le devis qui est cohérent en termes de prix, mais aussi s'assurer que le devis a bien marqué, enfin, il y a bien marqué tout ce dont on a besoin et qu'on n'aura pas de mauvaise surprise à la fin. On s'occupe aussi de faire la coordination entre les différents corps de métier, que ce soit l'électricien, le plombier, s'assurer que tout le monde a bien compris qu'il ne faut pas percer l'isolation, qu'on va utiliser tel matériau et donc il y a telle contrainte. Et donc ça, c'est suivi de chantier, on en fait à peu près une 15 à 20 par an. Mais c'est des activités qui sont amenées à augmenter. On a récemment recruté un maçon qui est spécialiste du coup de l'éco-rénovation et des matériaux anciens, qui développe cette activité actuellement.
Alors, ça peut faire partie de vos projets, justement, d'avoir recruté cette personne pour l'avenir, pour vous développer de ce côté-là, ouais. Est-ce que vous avez d'autres projets ?
Alors, on a de nombreux projets aujourd'hui. En fait, on cherche à développer, d'une part, tout ce qui est sensibilisation, conseil et accompagnement. En gros, on cherche à faciliter le développement de l'éco-construction sur le territoire en donnant confiance aux personnes sur ces techniques-là. Puisqu'aujourd'hui, les métiers du bâtiment, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. J'ai envie de dire que c'est un peu que le syndrome du garagiste, c'est-à-dire qu'on va avec sa voiture au garage, puis on sait pas trop combien on va payer parce qu'en fait, on a perdu une notion de combien ça coûte de réparer une voiture. Et bien, la maison, c'est un peu pareil, on sait plus trop combien coûtent les choses. Et donc, nous, on essaie d'amener des conseils transparents et clairs aux porteurs de projets, aux particuliers, sur combien ça va coûter, combien de temps ça prend, comment ça fonctionne. Et on travaille avec des artisans qui sont aussi dans cette philosophie, dans cette éthique. Et donc ça, c'est quelque chose qui marche bien. On a fait notamment des visites retour d'expérience. On a été chez 25 personnes chez qui on était intervenu. Alors soit on leur avait vendu des matériaux, soit on avait fait un accompagnement plus complet. Et donc on a fait 25 visites de chez ces personnes. Et pour leur demander s'ils étaient contents, pas contents, comment ça s'était passé leur chantier, est-ce qu'ils recommenceraient. Et donc on a fait des fiches de retour d'expérience de ces chantiers qu'on a traduit par une exposition qu'on a montrée lors des portes ouvertes d'Ecopertica qui avait lieu il y a une semaine. Et puis ces fiches, on les mettra sur notre site internet dans pas longtemps. Ce qu'on a retenu de ces fiches, c'est qu'en fait les personnes étaient... Ce qui les a beaucoup rassurés, c'est le fait d'être accompagnés par une structure qui n'était pas elle-même artisan. C'est-à-dire que nous, on n'est pas en position de faire passer notre devis ou pas. On est vraiment là pour accompagner les particuliers, pour s'assurer à la fin que le chantier soit bien conforme à ce qu'ils souhaitent et au budget qu'ils s'étaient fixé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment développer. On pense que c'est nécessaire aujourd'hui, d'autant plus qu'on parle beaucoup d'éco-construction, on parle beaucoup de réchauffement climatique. Donc c'est des solutions vers lesquelles on va s'orienter et on cherche à mettre du clair un peu dans ces solutions. Premier projet.
Oui.
Et le deuxième projet, c'est de développer la recherche et développement sur les écomatériaux pour développer les filières locales d'écomatériaux. Puisqu'en fait, on se dit que la transition énergétique, c'est une opportunité pour redévelopper des filières locales sur nos territoires, pour créer de l'activité économique, créer des emplois liés à la transition énergétique. Et donc pour ça, on a besoin de faire reconnaître les matériaux locaux et de continuer à développer ces filières. Donc voilà, je dirais que c'est les deux grands projets.
Merci. On termine par les contacts, si vous voulez bien.
Oui, tout à fait. Pour nous contacter, donc vous pouvez aller sur notre site internet www.ecopertica.com. Il y a notamment une page agenda qui regroupe toutes nos activités. Et puis ensuite, sur la page contact, vous aurez un email et un numéro de téléphone auquel vous pourrez nous joindre.
Merci. Eh bien, écoutez, monsieur Éloin, c'était un plaisir de vous avoir sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles. On vous souhaite une très bonne continuation et à bientôt. Merci.
Merci. Merci, Radio Alpes-Mancelles.
Merci. Bonne journée. Au revoir.
Votre magazine Planète Environnement est terminé pour aujourd'hui. Passez une excellente journée sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles, 106.3 FM.